OK, alors on est dans le cours de survol de la Bible, section de l'Ancien Testament, on est dans la partie des prophètes, et puis on traite ce matin du dernier grand prophète, et la semaine prochaine on va passer aux petits prophètes. Je vous mentionne tout de suite, cette semaine, ma famille et moi, on tombe en vacances une semaine, avec la semaine de la relâche, et puis c'est Samuel Gibault qui va prendre la relève dimanche prochain. Vous allez voir, c'est un bon enseignant, c'est lui qui va vous conduire dans le livre d'Osée. Alors, je pense que vous allez apprécier ça. Et on va se courber tout de suite dans un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole nous procure la vie parce qu'elle nous conduit vers toi. Ta parole nous aide à te connaître, ô Dieu, à fixer les regards sur toi, à entrer en relation avec toi, parce qu'on découvre ta puissance, ta souveraineté, ta grâce, ton amour, ta patience, Seigneur. Seigneur, ta parole pour nous, c'est la vie. C'est la vie parce que ton esprit s'en sert pour nous transformer, pour nous façonner à ton image, ô notre Dieu. Je te demande de bénir ce temps qu'on passe ensemble dans le livre de Daniel. C'est un livre majestueux, c'est un livre de foi, c'est un livre de force. C'est un livre qui parle encore une fois de ta gloire. Alors viens nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. Le livre de Daniel, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous êtes à peu près 15, puis aux quatre coins de la salle. C'est un petit peu un stretch pour moi. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le livre de Daniel? La fournaise ardente, des images fortes, hein? Quoi d'autre? Sam? La fosse au lion? Alors, si on parle de l'individu, on parle de sa droiture. C'est un homme de prière, c'est un homme qui aime profondément Dieu. C'est intéressant parce que dans les livres prophétiques, le livre de Daniel est un livre où il y a une bonne partie d'histoire. Alors le livre se concentre au début sur des événements que Daniel et ses amis, ses trois copains, ont dû traverser des épreuves et comment la foi est sortie glorieuse, Dieu est sorti glorieux de ces épreuves-là dans la vie de ces gens-là parce qu'ils se sont confiés en lui et Dieu est intervenu de manière extraordinaire. Et puis la deuxième partie du livre, on trouve plus les visions, d'accord? Un petit peu plus avec la dimension plus prophétique. Oui. Il y a un combat qui se vit dans la prière, OK? OK, excellent, excellent. Alors le livre de Daniel est édifiant sur le plan de l'exemple, parce que Daniel est un exemple extraordinaire, ses amis aussi, d'hommes qui se confient en Dieu, qui font confiance à Dieu, qui rendent même toute la gloire à Dieu, demeure toujours très humble à travers tout le processus. On va regarder quelques passages. Et c'est un livre aussi qui nous parle de la majesté de Dieu. D'accord? Si vous rappelez, la relation entre ces rois-là et Dieu va évoluer au fur et à mesure que Dieu va intervenir sur le royaume. On parle de rois païens, hein? On parle de Nébuchadnezzar, on parle de Darius, on parle de rois qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu, en manifestant sa puissance, en manifestant sa souveraineté, en démontrant que c'est lui, en fin de compte, qui est le boss, bien, va se révéler à eux aussi. Et ça aussi, c'est extrêmement encourageant pour notre foi, c'est très édifiant. Si on parle du thème du livre, bien justement, on peut le résumer ainsi. La souveraineté du seul vrai Dieu est manifestée dans son jugement envers les royaumes rebelles du monde et dans sa fidélité à délivrer son peuple. Alors, il y a deux volets. Le thème principal qu'on peut voir, c'est la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu sur les autres royaumes que le royaume d'Israël. C'est un des livres où c'est le plus évident, d'accord? C'est Dieu qui est le boss des autres royaumes aussi, de leur destinée. Et souveraineté de Dieu et bénédiction de Dieu, délivrance, donc la souveraineté de Dieu pour délivrer ceux qui se confient en lui, ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Date de rédaction, bien, Daniel a été prophète pendant les déportations et puis il a été au service du gouvernement du roi de Nébuchadnezzar à Babylone, d'accord? Alors le roi Nébuchadnezzar avait fait, si vous avez relu Daniel cette semaine, vous vous êtes rappelé, bien Nébuchadnezzar avait fait déporter des gens de qualité au moment de la conquête. Il avait fait déporter des gens de qualité afin de pouvoir les mettre à son service. Et donc lorsqu'ils arrivaient dans un territoire, Lorsqu'ils faisaient la conquête d'un territoire, ils allaient chercher des gens qui étaient de l'aristocratie, qui avaient plus d'instruction, plus d'éducation. Ils faisaient même une sélection parmi ces gens-là pour trouver ceux qui étaient les plus talentueux, les plus doués. Et puis, ils les instruisaient. Donc, ils les déportaient, ils les plaçaient à leur service. Daniel était tout probablement un eunuque, comme on en a déjà parlé dernièrement. D'accord? Et donc, il était consacré au service du roi. Il y a des parallèles. Est-ce qu'il y a un autre personnage biblique qui vous fait penser à Daniel? Est-ce qu'il y a un personnage dans l'Ancien Testament qui vous fait penser à Daniel? Non? Quelqu'un qui a été un conseiller des rois? Joseph. Joseph, mais oui. Hein, Joseph aussi. Joseph a eu des révélations de la part de Dieu qui l'a ensuite de ça placé en position d'autorité. Alors, il y a définitivement des parallèles entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Daniel dans leur expérience personnelle, dans leur vécu personnel. Donc, si on parle de date, on parle de 590 avant Jésus-Christ jusqu'au règne de Cyrus. Donc, il va voir quelques rois passer jusqu'en 530 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'auteur, bien encore une fois, il y a une particularité dans le livre. La première partie du livre est écrite à la troisième personne, d'accord? Donc, il nous est raconté l'histoire de Daniel. Puis après ça, lorsqu'on arrive dans la deuxième section avec les visions, Daniel va parler des visions qu'il a eues. Et donc, ça a laissé certains commentateurs perplexes et se sont dit, est-ce que c'est Daniel qui est l'auteur ou non? Est-ce qu'il a travaillé avec un secrétaire? C'est une bonne question. Généralement, on attribue quand même l'ensemble du livre à Daniel. Alors, peut-être qu'il a travaillé avec un secrétaire ou quelque chose comme ça, ce qui nous aiderait à comprendre la première partie. Je ne sais pas, c'était peut-être quelqu'un de son entourage. Mais généralement, les commentateurs reconnaissent que Daniel est l'auteur de ce livre-là, même s'il y a cette particularité-là. Au début, il nous est raconté comme si c'était un personnage extérieur. Un proche, un serviteur, un ami qui aurait vu ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Puis ensuite de ça, Daniel va parler des visions à la première personne. Il va raconter ce qu'il a vu. Bien, comme je le mentionnais, là, j'ai déjà mentionné un petit peu, si vous allez à la section auteur dans vos notes, le point 3, l'histoire nous raconte principalement celle de Daniel, donc les chapitres 1 à 6. Et puis à partir du chapitre 7, c'est plutôt Daniel qui va parler des visions qu'il a, d'accord? C'est ça. Au niveau de la structure, bien, c'est ça. Là, la structure est particulière. La structure est particulière parce que... vous avez un certain nombre d'expériences, d'accord? Lorsqu'on regarde les chapitres 1 à 6, vous avez un certain nombre d'expériences que Daniel a vécues dans les chapitres 1 à 6. Et après ça, lorsqu'on arrive dans les chapitres 7 jusqu'à 12, on va voir certains moments où il y a des visions qui sont rattachées à des moments qu'on a vécus avant. Je pense pas qu'on l'a mentionné comme ça, là, mais est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un chiasme? Chiasme ou chiasme, je suis jamais sûr de la prononciation. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Non? Ce n'est pas un sacre, d'accord? C'est quelque chose d'autre. Ça ne vous dit rien? C'est une structure où on fait A, B, B, A. A, B, C, C, B, A. Et donc, dans mon histoire, dans mon récit, je vais commencer une histoire, puis après ça, c'est comme si je vais repartir par la fin, puis je vais revenir au début, d'accord? C'est ce qu'on appelle un chiasme. Et donc, on va avoir un récit peut-être qui va commencer, qui pourrait faire l'inverse, pourrait commencer par la fin. Admettons, vous écoutez un film, d'accord? Vous écoutez un film, puis le film commence par la fin de l'histoire, puis en quelques minutes, il nous donne comme des éléments de la fin, mais ça ne nous dit pas le punch, mais ça nous dit les éléments de la fin, puis on voit un peu comment ça va se dérouler, puis après 7-8 minutes, paf, on retourne au début, puis là, il nous raconte l'histoire comme il faut. Bien, ça serait un chiasme, on pourrait dire, parce qu'on commence, dans le fond, c'est divisé en deux, d'accord? Et donc, on commence par... comme je vous dis, B, A, puis après ça, on repart A, B au niveau de la structure. C'est comme si on partait des chapitres d'un livre, admettons 10, 9, 8, puis après ça, on monte jusqu'à 1, après ça, on repart 1, 2, 3, 4, 5. Et ça donne un petit peu ça parce que les 6 premiers chapitres de Daniel... Oui, vas-y Patrick. L'Apocalypse, c'est l'Apocalypse. Oui, bien non, on n'appellera pas ça un chiasme parce qu'on parle de cycle. Okay? Le chiasme, là, c'est vraiment la structure, comme je dis, là, A, B, C, C, B, A, admettons. Puis là, tu arrives dans la deuxième partie, puis tu te dis, mais attends un peu, là, ça se répète. Et donc, dans ce sens-là, il y a un petit peu une comparaison à faire avec l'Apocalypse, parce qu'on a des cycles comme ça, mais c'est vraiment des cycles. Là, tu en as plusieurs. C'est, comment je dirais ça, c'est des méthodes littéraires. D'accord? On trouve ça ailleurs, on trouve ça dans des romans, on trouve ça... On trouvait ça déjà à l'époque aussi. C'est vraiment comme un genre littéraire. Le livre de Daniel aurait pu être écrit pour nous de manière plus chronologique si on avait eu... il est arrivé telle circonstance, Daniel a été, sa vie a été mise en danger pour telle raison, et puis telle vision lui a été donnée qu'il a sorti de cette situation. Puis avoir juste une ligne chronologique, ça n'a pas été écrit comme ça. On demandera à Daniel au ciel pourquoi, on ira prendre un café avec lui pour qu'il nous explique pourquoi il a décidé de nous mêler comme ça. Mais ce que ça donne, si vous regardez le point 4 au niveau de la structure, ce que ça donne, c'est qu'il y a des recoupements, d'accord? Si vous allez au point 2, dans la structure du livre, le règne de Belshazzar et de Darius, bien, vous avez 5, 1 à 31, puis 7, 1 à 28, 8, 1 à 27. D'accord? Ce matin, juste dans le cadre d'un 40 minutes, je pourrais prendre juste le 40 minutes à vous faire tous les parallèles puis aller les voir avec vous. On rentrerait moins dans le message du livre. Moi, ce que je vous suggère, c'est que la prochaine fois que vous lisez le livre de Daniel, vous reprenez vos notes, puis là, vous prenez le temps simplement d'aller lire ces sections-là ensemble. Et elles vont être beaucoup plus sensées, beaucoup plus logiques. Ça va vous apparaître beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus une suite logique. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus, là, où je vous ai complètement mêlé? Ça va? OK. Il faut le lire pour vraiment le visualiser. Mais si je reste avec ma structure que j'ai ici, toujours au point 4, donc j'ai le règne de Nebuchadnezzar, le règne de Belshazzar et de Darius, et puis après ça, le règne des Mèdes et des Perses. D'accord? Comme je vous dis, c'est une structure qui ne respecte pas la chronologie du livre. Donc, dans le règne de Nebuchadnezzar, on va voir les captifs juifs qui sont au service du roi. C'est vraiment le début du livre avec un premier test au niveau de l'alimentation, de la nourriture, tout ça. Le songe de Nebuchadnezzar avec la grande statue, le test de la fournaise ardente et puis l'humiliation de Nebuchadnezzar. C'est un des beaux moments du livre où on voit que Dieu se révèle à cet homme qui était orgueilleux en le rendant fou, en lui enlevant la raison pour plusieurs années. Deux, le règne de Belshazzar et de Darius. Alors, j'ai la chute de Babylone, la vision des quatre animaux et la vision du bélier et du bouc. Puis encore là, il y a des moments, même si on est dans les visions, quand on regarde la réaction de Darius, par exemple, c'est très édifiant de voir que malgré le fait que Daniel lui annonce finalement des moments terribles, il est tellement touché, ébranlé par la puissance de l'Éternel qu'il va respecter sa parole puis il va honorer Daniel. Ensuite de ça, le règne des Mèdes et des Perses. Alors Daniel dans la fosse aux lions, prière de Daniel pour le peuple, révélation des 70 semaines et les dernières révélations. Donc si je prends juste cette section-là comme exemple, si vous regardez le règne des Mèdes et des Perses, là, je suis au point 3 dans ma deuxième page, bien j'ai Daniel dans la fosse aux lions, j'ai la prière de Daniel pour le peuple, puis là j'ai une des visions, la révélation des 70 semaines, puis les dernières révélations. Alors voyez-vous, et si vous regardez les chapitres à côté, je me promène du chapitre 6 au chapitre 9 au chapitre 10, d'accord? C'est pas 6, 7, 8, donc c'est comme ça que le livre a été construit. Ça va? Contexte historique. Le prophète Daniel est aussi un contemporain de Jérémie et d'Ézéchiel. Alors, tous ces grands prophètes-là ont vécu dans la même période, intervenaient auprès de différentes personnes. Certains étaient à Jérusalem, d'autres étaient en déportation. Daniel est emmené en captivité à Babylone lors de la vague de déportation en 605 avant Jésus-Christ. Le récit raconté par Daniel couvre une grande partie de la période de la captivité du règne des Babyloniens jusqu'à la conquête de Babylone par les Mèdes et les Perses en 539 avant Jésus-Christ. Cette conquête, tout comme celles qui suivront, seront par ailleurs annoncées au roi Nebuchadnezzar, d'accord? Alors, Nebuchadnezzar va avoir une vision, Daniel va lui expliquer. Mais c'est ça, lorsqu'on a vu Ézéchiel, lorsqu'on a vu Jérémie, on parlait de prophètes qui étaient déjà dans le cercle, je dirais, des dirigeants religieux. C'était des sacrificateurs. Dans le cas de Daniel, il est simplement un employé du gouvernement. Il travaille pour le gouvernement, puis c'est un homme de Dieu, puis Dieu va se saisir de lui pour pouvoir apporter des révélations aux différents rois, pour révéler sa gloire. Donc, il n'y a pas de poste de sacrificateur, comme je le mentionnais. Comme j'ai mentionné aussi tantôt, on voit vraiment des parallèles avec Joseph, ce que Dieu va faire avec Daniel, à cause que les rois vont voir, vont reconnaître en lui, parce que Dieu lui donne des révélations. À cause de ces révélations-là, les rois vont reconnaître en lui une sagesse qui est au-delà de tout ce qu'il y a autour d'eux. Et donc, lui va être élevé, lui et ses amis, à ce moment-là, pour ces raisons-là. Puis, il va être testé Il va être éprouvé, par exemple, lorsqu'ils sont envoyés dans la fournaise, d'accord? Lorsque lui est envoyé dans la fosse. Donc, même s'il y a ces révélations-là, il est testé. Et parce que Dieu le délivre, parce que Dieu lui donne d'expliquer des songes, il va être élevé ensuite. Laissez-moi voir si un petit élément encore à mentionner. L'étendue des visions que Daniel reçoit couvre cette période-là, mais certaines des visions vont jusqu'à la fin des temps, si on peut dire, parce qu'il y a clairement des éléments, des visions qui nous parlent du royaume messianique, d'un royaume qui va durer éternellement. Dans certaines des visions, il est question de l'Ancien des jours, qui est Dieu lui-même. Et donc, c'est très étendu. La majorité des visions qu'il a concernent leur époque, ces quelques empires-là qui se sont succédés, mais souvent, ils vont se terminer avec une vue sur même juste sur la fin des temps. Et donc, c'est sûr que ça demande des prophéties. C'est difficile à suivre, c'est difficile à saisir. C'est beaucoup plus simple pour nous qui vivons après de comprendre ce qui s'est passé dans plusieurs des prophéties qu'on a ici. Quel est le message de Daniel? Mais comme on l'a dit tout à l'heure, premièrement, il y a l'exemple de Daniel et de ses amis. Ces hommes-là, c'est des exemples absolument extraordinaires, énormément édifiants. Dans Daniel 1, 1 à 9, on voit Daniel et ses amis qui avaient résolu de ne pas souiller, de ne pas se souiller avec les mets du roi et qui décident de se confier en Dieu. Et puis, ils sont prêts à assumer toutes les conséquences. D'accord? Des fois, lorsqu'on va faire un pas de foi, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va dire, « Seigneur, j'ai la foi. » Puis on... Comment je vous dirais ça? On en parle autour de nous comme « j'ai la foi, je suis prêt ». Mais si Dieu décide de faire ce qu'il peut faire, c'est-à-dire de ne pas honorer ça en disant « je comprends que tu as la foi, mais ce n'est pas ma volonté », mais là, après ça, on est tous déconfits, puis là, on ne comprend plus rien, puis là, notre foi est ébranlée. Ce n'est pas ce que Daniel fait, d'accord? Daniel, il dit « apporte-moi juste des légumes, apporte-nous juste de l'eau, et puis si à la fin de tout ça, Dieu a décidé, puis c'est pas ce qu'il dit littéralement, mais c'est ce qu'on comprend. Si à la fin de tout ça, Dieu a décidé qu'il ne nous délivrait pas, soit. Qu'il en soit ainsi. Tu nous traiteras dans toute ta rigueur. D'accord? Ce sera de notre faute à nous. Ça va? Et donc, ils vont faire ça constamment. Ils vont le faire lorsque ses amis sont envoyés dans la fournaise ardente. Si Dieu ne nous délivre pas, on va être avec lui, ça finit là. D'accord? Et donc, c'est ça la foi. C'est ça, la foi. La foi, ce n'est pas un moyen par lequel je peux faire une clé de bras à Dieu. Ce n'est pas un moyen par lequel je peux dire, « Oh Dieu, tu es Dieu, ton nom est en jeu dans cette situation-là, et moi, je crois en toi. Je vais donc déclarer à tout le monde que tu vas faire selon ma foi. » Vous comprenez? Mais des fois, c'est comme ça qu'on comprend la foi. On dit « j'ai jamais cru », puis là, à un moment donné, il y a comme un petit germe de foi dans une circonstance où d'habitude, on est saisi par la peur, puis là, il y a de la foi qui s'installe, puis là, on se dit « ok, là, je suis prêt à faire confiance à Dieu, je vais aller jusqu'au bout dans ça ». Mais en quelque sorte, la manière qu'on le conçoit, Dieu est mieux de répondre à ma foi. Parce que si Dieu agit pas comme je l'entends dans ma foi et comme je le veux dans ma volonté, étant convaincu que c'est la volonté de Dieu, mais là, je vais être défait. C'est pas ça, la foi. La foi, c'est premièrement savoir que Dieu est Dieu, que Dieu est Dieu en toutes circonstances. Et que donc, par conséquent, Daniel et ses amis, à qui devaient-ils obéir? À Dieu ou aux hommes? La foi, c'est savoir qui est Dieu. C'est même pas une question. J'obéis à Dieu, point. La question est réglée. Et si Dieu décide qu'il ne me délivre pas de mes ennemis, ben c'est possible. J'ai la foi très ferme qui est capable de me délivrer de mes ennemis. S'il décide que mes ennemis vont gagner là puis que je m'en vais dans sa présence, alléluia, c'est correct. Maintenant, ça s'applique partout, là. Ça s'applique au travail, ça s'applique en amour, ça s'applique avec la gestion de mes finances, ça s'applique avec ma santé. Je prie pour des problèmes de santé que j'ai, puis je dis, « Seigneur, j'ai pas de foi. » Puis à un moment donné, il y a comme un petit germe de foi qui naît en moi. Est-ce que ça veut dire que Dieu va faire nécessairement, pas nécessairement, d'accord? La foi n'est pas un moyen de faire une clé de bras à Dieu. La foi est une bonne vision de Dieu qui nous amène à agir conséquemment. C'est tout. Est-ce que Dieu est capable de me guérir? Si j'en doute, j'ai pas une bonne vision de Dieu. Est-ce que Dieu est bon? Si j'en doute, j'ai pas une bonne vision de Dieu. Est-ce que Dieu est plus grand que les hommes autour de moi? Si j'en doute, je n'ai pas une bonne vision de Dieu. À partir du moment où j'ai une bonne vision de Dieu, que je comprends vraiment qui est Dieu, j'ai la foi. J'ai la foi. Et là, dans certaines circonstances, dans certains moments, Dieu va aller exactement selon nos requêtes. Et puis, il va bénir. Puis, il va bénir avec abondance parce que j'ai eu la foi, puis parce que c'était selon sa volonté. Au chapitre 3, nous voyons que le roi Nébuchadnezzar décide de faire construire une statue d'or et ordonne à tous de se prosterner devant elle. Alors, qu'est-ce que les gars vont faire? Ils vont refuser. On va tourner ensemble dans Daniel 3. Daniel 3, 19. Sur quoi Nébuchadnezzar fut rempli de fureur en apprenant que les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent de se prosterner. Il fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise et puis envoie ces hommes-là dans la fournaise. Maintenant, au verset 23. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nébuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Est-ce que c'est Christ qui est là? Est-ce que c'est un ange qui est là pour le soutenir? Bonne question. Mais Dieu est là avec eux, ça c'est clair. Lorsque ces hommes-là ont été testés, ces hommes-là ont déclaré devant le roi, regardez au verset 16, 17, 18, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nébuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Est-ce que ça, c'est un exemple pour nous? Est-ce que comme chrétiens, on est appelé à vivre ce genre de vie-là? Est-ce qu'il y a des parallèles qui vous viennent à l'esprit dans le livre des Actes? Pensez aux apôtres lorsqu'ils se retrouvent devant les autorités. Puis les autorités leur disent, on vous interdit de parler de ce nom-là. C'est quoi la réponse de Pierre, des apôtres? Exactement, on va obéir à Dieu au lieu d'obéir aux hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le livre des Actes? À tout coup, ils sont sortis de la fournaise ardente? Non? Jacques est mis à mort. Étienne est lapidé à mort. Pierre est sauvé. Éventuellement, ce que l'histoire nous révèle, non pas les Écritures, mais pour autant qu'on peut savoir à travers l'histoire, il va mourir lui aussi comme martyr, Pierre, en fait, la quasi-totalité des apôtres et des premiers disciples, pour autant que l'histoire nous le révèle, sont morts martyrs. Et donc, il est venu un temps où Dieu a décidé, non, tu vas venir me rejoindre, tu vas mourir. Donc, ce qui se passe ici, qui est comme fabuleux, là, parce que c'est une fournaise, puis tout ça, puis c'est ça qu'on retrouve dans les Actes. D'accord? Et l'attitude de ces hommes-là qui sont droits comme ça puis qui disent non. Alors imaginez lorsqu'on arrive dans le temps du Nouveau Testament, après le départ du Seigneur, à la fin même de tout le Nouveau Testament, le dilemme dans les églises locales, lorsque dans les périodes de grande persécution, il y avait ce qu'on appelait des chrétiens relapses, c'est-à-dire des chrétiens qui devant l'épreuve, devant la menace, ont plié et puis ont renié le Christ, ont renié Dieu. Et puis après ça, après qu'ils l'aient renié, ils sont libérés. Puis quelque temps après, ils sont repentants parce qu'ils ont amèrement honte de ce qu'ils ont fait et ils veulent réintégrer l'Église. Imaginez les situations dans l'Église qui demandent du pardon, de la grâce parce que vous êtes ici. Et puis Patrick, lui, il a vu son père mourir parce qu'il a jamais plié. Puis il est mort, puis il a perdu quelqu'un d'autre, puis il a perdu quelqu'un d'autre, puis je sais pas, moi j'ai renié. Puis là, je reviens, puis je dis, accueillez-moi, le Seigneur me pardonne. Imaginez les tensions, n'est-ce pas? Alors, l'Église a vécu ça. L'Église le vit encore aujourd'hui. pas vraiment pour l'instant en Occident, mais l'Église le vit dans d'autres pays actuellement, où c'est pas... écoutez, dans plusieurs des pays musulmans actuellement, plusieurs d'entre eux, pas tous, là, il y en a où c'est très libéral, mais il y en a d'autres où c'est vraiment un musulman qui se convertit et complètement dépouillé de tous ses biens, poursuivi dans bien des cas pour qu'on le mette à mort, d'accord? Et donc, on a des missionnaires qui travaillent dans ces pays-là, ils ne s'appellent pas des missionnaires. Ils s'en vont là avec une profession, ils travaillent sous leur profession, et puis souvent c'est de l'évangélisation par la radio, c'est de l'évangélisation par courrier, courrier qu'on ne peut pas retracer, et ils vont faire des tournées, ils vont se promener de village en village parce qu'ils savent qu'il y a deux convertis là, il y a un jeune chrétien là-bas, il y en a un autre qui cherche mais qui a peur d'être mis à mort ou d'être renié par sa famille, et puis ils vont en abriter d'autres. Et c'est ça qui se passe dans plusieurs pays actuellement encore aujourd'hui. Et ça va continuer à être comme ça, d'accord? Il ne faut pas qu'on rêve du jour, je pense pas qu'on a rêvé du jour où ça ne sera plus comme ça pour le christianisme nulle part dans le monde. Ce serait probablement un indicateur que notre christianisme n'en est plus un, d'accord? Puis que notre évangile n'est plus un objet de scandale pour personne. Mais même ici en Occident, on voit déjà paraître des signes assez clairs qu'on va devenir de plus en plus des gens qui vont apparaître au monde comme des êtres immoraux, d'accord? Et parce qu'on est contre l'avortement, parce qu'on pense que c'est contre nature l'homosexualité, parce qu'on pense que c'est contre nature être transgenre ou des choses comme ça, et puis le mariage entre les gens homosexuels, on pense que c'est contre nature. Et donc on va dire, ben ça, je pense que je peux t'aimer toi, mais Dieu t'appelle à te repentir de ça, comme il m'appelle à moi à me repentir de plein de choses. Mais ça, on voit les temps venir où il va y avoir plus d'intransigeance à notre égard, d'accord? Parce qu'on va apparaître comme des gens immoraux, des gens qui respectent pas les individus. Et donc, on doit apprendre de ces choses-là. Apprendre pour exercer déjà notre foi au quotidien. Au quotidien, j'ai plein de situations tellement plus petites où j'ai un choix à faire, obéir à Dieu ou faire selon le monde. Des situations, des conflits financiers, des situations où j'ai un accident de voiture, puis la personne veut profiter de moi, puis je dois me poser la question, est-ce que je vais agir comme Jésus le ferait, ou est-ce que je vais le faire, j'ai la loi de mon côté, je vais me servir de la loi. Est-ce que l'Esprit de Christ va être manifeste dans mon intervention? Puis là, je dénote qu'il y a de la mauvaise foi de la part de l'autre. Ah oui, il n'y a pas la bonne foi, comment est-ce que je pourrais m'attendre qu'il y ait de la bonne foi? Il ne connaît même pas Christ, c'est juste la mauvaise foi qui est là. Alors, comment est-ce que moi, je vais me comporter? Et voyez-vous, ces hommes-là étaient là et ils disaient, sur notre vie, on ne pliera pas devant ta statue. Qu'on vive, qu'on meure, c'est Dieu qui décide, mais on ne pliera pas. Et notre Dieu est capable de nous délivrer de là. D'accord? Et donc, encore là, si j'avais une attitude plus moraliste qui disait, je sais ce que Dieu veut que je fasse, je vais le faire, puis donc ça va aller mal parce que je vis dans un mauvais monde, puis donc Dieu me délivrera jamais, dans le fond, je me sers de la loi de Dieu comme ce qui dicte ma conduite sans qu'il y ait la foi que Dieu peut faire des choses majestueuses dans bien des circonstances. D'accord? Encore là, je ne serais pas en train d'apprendre de ces gens-là. Oui, Patrick. Où Dieu ne l'avait pas dit, puis sur la base des statistiques, je suis d'accord avec toi, quand on lit attentivement le livre de Daniel, dans leur cas à eux, il semble quand même que Dieu leur a donné une foi particulière aussi, qu'il pouvait, puis qu'elle allait les délivrer. Je le regarde avec l'attitude de Daniel. Comment je vous dirais ça? Dieu le fait plus souvent qu'on pense. Puis Dieu délivre beaucoup plus souvent qu'on pense. Dieu fait des choses extraordinaires plus souvent qu'on pense, puis peut-être plus souvent même que notre foi ne le mérite. Fait que oui, je pense que tu as raison, il fallait qu'il soit absolument prêt. Quand on lit attentivement le livre de Daniel, avec la première épreuve, tournez avec moi dans Daniel 1. C'est-tu celle-là? Peut-être que je me mélange. Lorsqu'il va vers ses amis, puis... Non, c'est pas celle-là, c'est un peu plus loin, c'est avec la vision, c'est avec le songe. Puis Daniel s'en va vers ses amis. OK, c'est ici. Au verset 2, 17. Chapitre 2, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ben, moi, ce que je vois ici, ça me fait penser un petit peu à Paul qui est en train de prier dans la prison puis qui est en train de chanter des louanges à Dieu. D'accord? Dans le sens que la situation qu'eux autres sont en train de vivre, c'est le roi a eu une vision, il ne se souvient même plus de sa vision, il a eu un songe, il ne se souvient même pas de son songe, puis il dit, OK, Régent, explique-moi ça. Alors Régent, il dit, raconte-moi là au moins, je vais pouvoir faire de quoi. Non, je veux que tu me dises c'était quoi mon songe, parce que je ne me rappelle pas. Quand tu vas me le compter, je vais m'en rappeler. Ça va me revenir, tu sais, je vais dire, ah, c'est ça, Régent, puis je veux que tu l'interprètes en plus, tu sais. Et puis, donc, tout le monde panique, ils disent, non, c'est impossible. Daniel dit, ben, c'est pas plus difficile que Régent me le raconte que Dieu me le raconte. C'est pas ça le point, là. Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Et donc, Daniel refuse de fonctionner juste avec la logique humaine de dire, ben, ça arrive quand même pas souvent que Dieu donne des révélations comme ça. Mais Daniel dit, d'un autre côté, notre vie en dépend. Si aucun d'entre nous, des médiums, des sages, des magiciens païens, ni un de ces quatre hommes-là ne révèle, on est tous zigouillés toute la gang. Fait que ça vaut quand même la peine de mettre Dieu à l'épreuve, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va vers il demande le droit, il demande un temps. Il dit, Dieu va me donner ça, je crois qu'il peut le faire. Et puis, il demande un temps, puis il dit à ses amis, priez avec moi, là, parce que les boys, notre vie est là-dessus. Là, t'sais? Et le ton quand même que je vois dans ça, pour moi, ça relève un petit peu du ton qu'il y avait avec Paul, qui est en prison avec Silas, si je me souviens bien, puis il est là, et puis il est en prison, et puis ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de louer Dieu, ils sont en train de chanter des louanges pendant la nuit. Sûrement qu'il y avait aussi des supplications, tu sais, c'était pas juste comme « Alléluia, on va se faire zigouiller demain matin ». Non, il devait avoir aussi des supplications. Mais il y a cette confiance qui est là que Dieu peut intervenir. Et donc, c'est ça que je vois ici, c'est cette témérité qui dit « Mon Dieu est grand ». Et plutôt que simplement m'abattre puis dire les choses vont suivre le cours logique, on va rester dans le naturel. Dans le naturel, pour qu'on puisse interpréter des songes, il faut que quelqu'un dise le songe, toujours bien. Puis là, Dieu peut peut-être te donner une sagesse pour interpréter le songe. Ça, ce serait le naturel. Mais Daniel, il dit non, mon Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Et donc, je vais aller là-dedans. Puis c'est pour ça que je dis, je perçois chez Daniel puis chez ses compagnons, cette foi qui dit, attends un peu. Et si Dieu en faisait encore une hotte, là, pourrait le faire, d'accord? Il faut être prêt à 100% à dire, si Dieu décide que c'est notre fin, c'est notre fin. Puis si Dieu avait décidé de ne pas répondre à Daniel, Daniel aurait dû continuer à louer Dieu. Puis il dit, Seigneur, tu as décidé que ma délivrance est arrivée, je m'en vais dans ta présence, ça finira. Mais ce que je perçois, c'est une foi plus grande. Et je pense qu'on a beaucoup à grandir dans cette témérité-là de la foi. On fonctionne beaucoup avec la raison. C'est un courage qui est prêt à prendre des risques. D'accord? C'est pas juste le courage, c'est un courage qui voit le risque puis qui dit « Mes probabilités sont pas très très bonnes de m'en sortir, mais Dieu est puissant, puis je vais me lancer. » Ça, c'est téméraire. C'est être prêt à prendre des risques qui ont de l'air non calculés, tout ça un peu. Et je pense qu'on a beaucoup à grandir dans ce domaine-là. Notre réflexe à nous ici en Occident, c'est de fonctionner uniquement par la raison, pas avancer par la foi. Puis souvent, notre indice qu'on n'avance pas par la foi, c'est parce qu'on n'est pas bien dans notre peau, on a des craintes, on a des peurs. Puis là, on se dit, la foi sert à ce que je fasse confiance à Dieu, à ce que je me repose en Dieu, à ce que... C'est vrai, mais la foi, ça sert à beaucoup plus que ça. La foi, ça sert à déplacer des montagnes. Oui. Oui, c'est ça. C'est exactement, je dirais, c'est au quotidien. D'accord? Nous, on regarde ces gens-là, puis on se dit, bon, ben, OK, Seigneur, si jamais on menace d'aller dans une fosse, je me rappellerai de Daniel. Ce sera le texte à me rappeler à ce moment-là, tu sais, pour m'en sortir. Non, je suis supposé de me rappeler de ça quand je fais mon culte le matin. puis dire j'ai ma journée devant moi, puis il y a des épreuves qui sont devant moi, puis j'ai besoin de sagesse, mais j'ai besoin aussi, Seigneur, que cet employé-là qui est constamment sur mon dos puis qui m'empêche d'annoncer l'Évangile au travail parce qu'il y a juste une haine contre les chrétiens, tu peux le faire taire, Seigneur. Tu peux le faire taire, Seigneur. D'accord? Oui. Oui, constamment. Il remet toujours la gloire à Dieu. Oui. Oui, oui, oui. Et il le fait lorsque Dieu donne des révélations, puis il le fait devant les rois aussi. Il rend toujours la gloire à Dieu. C'est vraiment pas, c'est pas un cas là, de « Wow, je suis l'homme de Dieu, j'ai les révélations ». C'est vraiment pas ce cas-là. Et donc, un petit peu comme David disait, je pense que c'est quelque chose qu'on doit exercer à tous les jours. Pour nous, souvent comme chrétiens en Occident, la foi nous sert à nous calmer quand on est troublé. Puis c'est comme si la seule chose qu'on arrive à trouver là-dedans, c'est de dire « Dieu est souverain, Dieu est bon, il faut que j'accepte les épreuves ». C'est vrai, mais tu peux aussi demander à Dieu de les enlever, les épreuves. Tu peux aussi demander à Dieu de faire des choses extraordinaires. La foi n'est pas simplement quelque chose qui me permet de demeurer passif et calme. Comprenez, je suis rassuré parce que Dieu est souverain, puis Dieu sait ce qu'il fait, puis Dieu m'a envoyé un cancer, fait que Dieu sait ce qu'il fait, puis Dieu m'a envoyé ci, puis il y a plus que ça. Et ça ne veut pas dire que Dieu répond toujours. Ça ne veut pas dire que Dieu, comme j'ai dit, la foi, ce n'est pas quelque chose avec lequel je fais un clé de bras à Dieu. J'ai un ami personnel qui devait prendre une décision super importante dans sa vie, et puis à un moment donné, dans le processus, la prière, consultait Dieu, il était convaincu qu'il avait trouvé quelle était la volonté de Dieu. Puis là, il était engagé là-dedans avec comme une espèce de course. T'sais. Il savait c'était quoi, puis il avait la foi, puis bang, bang, bang. Mais pas du tout, il s'est complètement trompé. Et Dieu n'a pas permis ça, que ce soit ça qui se passe. Et dans sa relation avec Dieu, je pense qu'il y en a eu pour pas loin de 2 ans. C'est un pasteur, vous l'aurez deviné, c'est toujours des pasteurs, les gars proches comme ça de moi. Mais pendant à peu près 2 ans. Puis moi, j'étais proche de lui, on prenait du temps ensemble. Il n'arrivait pas à prier. Il priait, mais... Priait comme on rend grâce pour la nourriture, puis on dit « Seigneur, je monte pour prêcher, fait que sois avec moi », tu sais, mais sans une foi qui dit « Seigneur, t'es encore là, tu peux encore faire des choses majestueuses ». Et donc, il va y avoir des moments où ces grandes fois-là qu'on a vont être éprouvées parce que Dieu va faire sa volonté, qui concorde pas avec notre foi à ce moment-là, d'accord? Et on doit retomber sur les deux pieds sur le roc qui est Christ et se rappeler qu'il est là, et puis remonter ça. Pas tomber, parce qu'après ça, le réflexe, comme je vous dis, c'est de tomber avec une espèce de foi qui est très rationnelle. On va dans les Écritures pour se sécuriser, pas pour être conquérant. Est-ce que vous comprenez la distinction entre les deux? Votre famille, vous avez des proches dans votre famille qui ne marchent pas avec le Seigneur. Votre foi vous sert à quoi? À vous sécuriser ou à être conquérant à leur égard? Dans la prière, à ouvrir la bouche, puis vous n'avez pas eu de réponse. D'accord, je comprends. Ça peut être long. Leur déportation a été longue ici. Leur retour en Israël, ça a pris du temps en titi. D'accord? Mais ce que j'apprends de Daniel et de ses amis, c'est que la foi est conquérante. Ce n'est pas la foi si la foi sert juste à me rassurer. La foi me sert à bouger, à avancer. C'est bon? Alors, on trouve ces hommes résolus qui se confient en Dieu et qui avancent. Deuxième élément du message de Daniel qui est vraiment super important, c'est ce Dieu qui est souverain sur les puissances du monde. Et dans le livre de Daniel, ça prend une dimension très édifiante parce que ce n'est pas juste une information qui nous montre « Oh, nous autres, on est au service d'un Dieu puissant, puis les nations de la terre n'ont qu'à bien se tenir. C'est lui qui décide lorsqu'elle se lève. C'est lui qui décide lorsqu'elle tombe. Amen, c'est tout vrai. » Mais il y a plus que ça parce que Dieu va se révéler à des rois à travers ça. Et c'est ça qui est encore plus édifiant, c'est de voir comment Dieu peut aller saisir les cœurs de ces gens-là. Et à travers l'histoire de l'Église, on en a des gens qui ont voulu comme démontrer que Dieu était d'un patate. Lorsqu'on va écouter le témoignage d'Alain Caz vendredi saint, Bien, c'est un gars qui a pris les Écritures pour montrer que c'était n'importe quoi, ce livre-là. Que c'était pas une révélation divine, d'accord? Puis Dieu arrête des gens comme ça et puis les confond. Alors, premier songe, lorsqu'on est dans Daniel 2, Dieu donne un songe au roi Nébuchadnezzar, et puis à travers ce songe-là, Dieu va révéler la suite des temps, la suite des règnes qui s'en viennent. Et puis, puis Daniel va intervenir, puis il va dire, « Donne-moi le temps d'aller prier pour que mon Dieu me révèle ce songe. » Et c'est ce que Dieu va faire. Et regardez avec moi le verset 21. En fait, regardez 19, 20, 21, je suis dans Daniel 2, 19, 20, 21. « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure devant lui. Premier élément, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Alors, le livre de Daniel nous révèle que Dieu est souverain sur toutes les nations de la terre, sur toute l'histoire de l'humanité. Et c'est encourageant pour nous. Entre autres parce que lorsqu'on lit les Écritures, tout se passe, tu sais, dans un jusqu'à temps qu'on arrive à la période missionnaire avec Paul, ça se passe beaucoup dans un espace très confiné. Puis tu te dis, oui, mais est-ce que Dieu a son regard sur le reste de la terre? C'est un Dieu étrange qui est comme juste là. Puis qu'est-ce qui se passe? Alors, Dieu est souverain. Dieu s'occupe de tous les hommes. Dieu a conscience du bien et du mal que font tous les hommes partout sur la terre. D'accord? Et c'est lui qui non seulement il connaît, mais c'est lui qui change les temps et les circonstances. Si jamais vous voulez lire quelque chose d'assez troublant, édifiant, challengeant pour votre foi, lisez, il y a deux biographies principales en français de Georges Müller. Puis il y en a une où on voit toute sa vie de prière pendant la guerre. D'accord? Et comment il priait pour ce qui est en train de se passer, la conquête des ennemis, les Allemands, les Persés, tout le kit. Et puis vraiment, il était engagé comme ça. Il priait pour tel endroit, puis il priait pour une percée, puis oh, il y avait une victoire. C'est intéressant, c'est troublant. Tu te dis, OK, est-ce que ça va jusque-là? Parce que c'est clair là, que c'était une guerre abominable. Mais est-ce que ça va jusque-là? Bien, théologiquement, bibliquement, pourquoi pas? Dieu est souverain sur les temps, sur les circonstances. Et donc, c'est vrai qu'on doit prier. Par exemple, quelle est votre attitude envers la situation pour le christianisme ou pour la foi au Québec? Quand vous priez pour nos autorités, comment est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez avec foi pour que Dieu nous donne la liberté de vivre notre foi librement et d'annoncer notre foi? C'est ce que Paul nous dit de faire. Hein? Paul nous dit, priez pour les autorités afin qu'on puisse vivre librement notre piété, puis priez pour leur salut parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que vous priez vraiment avec cette foi-là que Dieu est capable de nous donner des champs de liberté? Et que la vague qu'on sent où on dit non, on ne pourra plus annoncer l'Évangile, Dieu n'est pas arrêté par ça. Dieu peut lui décider, regardez, on fige ça là, puis je leur donne la liberté où je vais ouvrir d'autres portes pour qu'ils puissent proclamer l'Évangile. Est-ce que cette foi-là, dans ce Dieu qui est au contrôle des circonstances, est-ce que votre vision de notre société là, de ce temps-ci, c'est la commission Charbonneau, tout ça, puis on est au courant, puis il y a comme une espèce d'écœurement, hein? C'est comme, t'es saturé, tu dis, mais cette gangrène-là de corruption est là partout, puis là, tu réfléchis juste aux citoyens qui payent toutes sortes d'affaires en dessous de la table, puis tu le quittes sans payer les taxes, puis tu dis, ouais, c'est absolument partout, puis il y a comme une espèce de décrochage, tu sais. Je crois que le réflexe est facile de comme décrocher, puis juste de dire, mais ça, c'est eux autres, c'est pas nous autres, puis ça me concerne pas. Non, ça me concerne parce que ça concerne Dieu. Ça me concerne parce que ça concerne la liberté de la foi. Ça me concerne parce que ça concerne le salut des Québécois. Et si Dieu peut se servir de la commission Charbonneau pour montrer aux Québécois qu'ils sont tous, dans le fond, des fourbes, parce qu'ils sont tous pécheurs, comme moi, bien que ce soit ça. Mais Dieu est souverain sur les circonstances, c'est lui qui change les temps, c'est lui qui change les circonstances, c'est lui qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et c'est ce que ce livre-là nous enseigne. Dieu va révéler une succession de royaumes. C'est ça que Dieu révèle à travers le songe. Et puis Daniel va venir expliquer ces choses-là. Je voudrais juste souligner un élément. Non, OK, on va aller tout de suite avec l'arbre. Donc, au chapitre 4, Nebuchadnezzar va faire un autre songe, celui d'un arbre, où il va voir un arbre majestueux qui va finalement être retranché, tout ça. Daniel va venir l'expliquer encore, et cette fois-là, c'est pas les royaumes, c'est lui, c'est Nebuchadnezzar. Et il dit, c'est toi, ça, c'est toi qui vas tomber, c'est toi qui vas perdre la boule, c'est toi qui va être pris de folie. Et puis, il ne va pas s'humilier. Parce qu'à la fin, c'est intéressant, hein? Pensez à Jonas. Jonas est envoyé vers une nation païenne, vers Ninive. Et puis, il n'y avait vraiment aucun intérêt à voir les Ninivites se repentir. Il les haïssait, il les détestait, il voulait les voir. Au contraire, Dieu lui avait annoncé de bonnes nouvelles. Il se préparait à détruire Ninive. Et donc, Jonas est extrêmement content de cette nouvelle-là, jusqu'à ce qu'il lui soit dit, « Va, puis annonce-leur ça. » Mais c'est ce que Daniel fait avec Nebuchadnezzar. Il termine en expliquant la vision, et puis il dit, « Maintenant, repens-toi. » Repens-toi. Il est devant Nebuchadnezzar, là, que c'est Dieu pas là, c'est Nebuchadnezzar qui décide sur sa vie. Il lui dit, repens-toi. Nebuchadnezzar ne va pas se repentir. Et Dieu va le confondre et Dieu va l'humilier. Et lorsqu'on arrive à la fin du chapitre 4, verset 36, c'est Nebuchadnezzar qui parle. « En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. » En Daniel 4, 36, « Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que croître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? On doit prier pour que nos autorités fassent ça. C'est comme ça qu'on doit prier pour le gouvernement. On doit prier pour Mme Marois, puis on dit, Seigneur, viens te révéler à elle. Qu'elle soit confondue dans sa foi, qu'elle puisse découvrir qui tu es, que tu viennes racheter son âme. On doit prier pour nos autorités et que Dieu leur accorde cette même grâce-là, s'il le faut à travers des épreuves comme Nebuchadnezzar en a vécu. D'accord? Alors, on va terminer avec un dernier élément. Si vous allez dans Daniel 7, Daniel 7, verset 9 à 17. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues, comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est pour ça que je vous dis, mais évidemment, on voit Christ apparaître ici. Et on pense à Ésaïe 53, on pense au psaume 2. Donc, l'image, la figure du Messie est déjà présente dans l'Ancien Testament. Et son règne qui s'en vient est déjà annoncé. Et donc, la portée des prophéties de Daniel est non seulement pour son époque, mais elle va jusqu'à la consommation des temps. D'accord? Et donc, lorsqu'on cherche Christ à apparaître dans l'Ancien Testament, on le voit apparaître ici aussi. Peut-être dans la fournaise. Là, on ne saurait pas le dire, là, vraiment, si on spécule. Mais ici, on le voit apparaître. Et lorsqu'on fait les parallèles avec d'autres passages, c'est indéniable que c'est celui à qui a été donnée toute domination. C'est à Christ que s'est donnée cette domination-là. Et donc, Daniel, qui a de son vivant jamais connu Christ personnellement, connaît pas qu'est-ce qu'il s'en vient faire avec la croix, avec son sacrifice, tout ça, a déjà une révélation du Messie qui s'en vient. Et cette vision-là qui est donnée vient nourrir sa foi parce qu'il croit dans ce Dieu qui, en bout de ligne, la fin de l'histoire, il la connaît déjà. C'est Dieu qui est vainqueur. C'est Dieu qui est vainqueur. Et il y a ce personnage mystérieux qui apparaît là, qui est Jésus-Christ. C'est absolument extraordinaire. D'accord? Quelles sont les applications? Vous pourrez aller voir, je m'excuse, là, à la fin, je vous donne Marc 14, versets 61-62. Des parallèles là, que vous pourrez faire pour aller voir justement que c'est la personne de Christ qui apparaît là. Quelles sont les applications qu'on peut tirer? Il nous reste deux petites minutes. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme application personnelle du livre de Daniel? Vous avez quelques exemples ici, mais j'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme application personnelle du livre de Daniel? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on a parlé, ou que j'ai parlé, vous avez pensé à des circonstances où Dieu vous appelle à appliquer ça, appliquer des choses qu'on a vues là-dedans? Oui, David. Par exemple, toi, tu travailles en médecine. J'imagine qu'il doit y avoir des situations où il y a des décisions rapides à prendre qui ont une portée éthique, qui ont une dimension éthique. C'est ça. Et donc, ça te demande à toi, tu sais, OK, est-ce que je marche avec l'Éternel? Puis d'avoir cette résolution-là avant même que les circonstances arrivent, pour après ça, simplement poser la question, quel est le bien selon Dieu? Et je vais agir selon ça. Parce que des fois, il y a des questions de vie et de mort même qui sont là. Il y a des questions éthiques. C'est bon, un bon exemple. Pouvez-vous m'en donner un ou deux encore? Avant de terminer. Oui, Gérard. Oui, oui.
Et on est tous appelés à faire ça. C'est pas un ministère de déplacer les montagnes. C'est croire la promesse que Dieu nous a donnée dans notre propre vie et qu'elle va témoigner que Dieu est vivant avec nous.
C'est bon. Merci. Écoutez, une application importante, puis si vous retenez juste celle-là, certains d'entre vous, vous marchez seulement par la raison. La foi vous sert à. Puis là, quand je dis vous, là, comprenez qu'il y a des journées que c'est moi aussi, puis j'ai eu des périodes dans ma vie où c'était ça. Là, okay? Fait que c'est pas, je ne vais pas être condescendant. Mais la foi vous sert à trouver de la joie dans la louange le dimanche matin. La foi vous sert à faire certains choix éthiques. La foi vous sert à vous rassurer quand la vie est trop stressante. Mais la foi vous sert essentiellement dans une attitude, vous conduit essentiellement dans une attitude passive. Et la raison pour ça, c'est que vous avez démissionné de la foi. Certains d'entre vous, là, je ne connais pas vos histoires individuelles, mais vous avez démissionné de la foi, puis il n'y a plus de place pour avoir une foi conquérante. Patrick? La raison, oui, mais en fait, OK, quand je dis la raison, bonne question, Patrick. Je me sens toujours de la raison. Mais le début de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, dans le sens biblique du terme, c'est pas juste dire « aïe, 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 il peut me frapper », c'est connaître Dieu comme il est. Donc, si vous voulez vous servir de la raison, servez-vous-en comme Dieu a voulu qu'on le fasse. La raison, c'est quoi? Dieu, c'est le boss. Dieu est capable, Dieu est victorieux, ça, c'est la raison. La raison, c'est que si Dieu veut renverser quelque chose, il le fait. La raison, c'est que si Dieu veut déplacer cette montagne-là, il me donne la foi, Dieu va déplacer la montagne. Ça, c'est la raison, dans le sens vrai du terme. Quand je parle de la raison, ce que je veux dire, c'est que on se dit, on garde Dieu à l'extérieur, puis on se dit, bon, OK, Seigneur, tu m'as donné l'intelligence, il faut que je me sorte de là. As-tu pris le temps de prier? Puis là, tu dis, OK, on est juste dans le damage control. On va juste essayer de s'en sortir avec le moins de dégâts possible. Il n'y a aucune foi que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Si je veux me servir pour de vrai de la raison, Il dit, attends un peu, c'est toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts, c'est toi qui as, Jésus, c'est toi qui as ressuscité Lazare. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette circonstance-là? Là, je me sens de la vraie raison. Pas juste avec mes yeux, mais avec les yeux de la foi aussi, parce que j'ai vraiment conscience qui est Dieu. Et donc, si ma raison me permet seulement d'être indépendant de Dieu, parce que j'ai décroché, j'ai essayé de faire appel à Dieu dans des circonstances. J'ai été déçu, j'ai été éprouvé. Ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Et là, j'ai décroché de la foi, puis il ne me reste que la raison à vue humaine. Ce n'est pas une raison qui est animée de la crainte et de la connaissance du Dieu véritable. C'est une raison qui dit, bon, mais agissons avec sagesse ici. Mais moi, personnellement, là, je fais face à ça constamment. Moi, je peux conduire l'Église avec ma raison. En plus de ça, là, ceux qui sont proches de moi, puis ceux qui m'influencent, puis m'ont toujours dit, s'il y a une affaire que tout le monde me dit que j'avais comme don spirituel, c'est la sagesse. Fait que tout le monde me dit, Yannick, tu as le don de sagesse. Je peux avancer juste avec la sagesse sans la foi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je calcule. Toujours sur un mode calcul. Il y a ça qui ne va pas dans l'Église, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller faire ça, il y a ça, il y a lui qui va faire ça. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de « Seigneur, surprends-moi », il n'y a pas de « Seigneur, je n'ai pas les ressources, mais je ne dois pas juste gérer avec les ressources que j'ai, parce que toi, ce n'est pas ça tes ressources sont infinies. Seigneur, j'ai besoin d'un ouvrier. Seigneur, on a besoin d'une sœur qui va aller s'impliquer là. Il y a telle personne qui souffre dans ce coin-là, est seule dans son coin. Avec la raison, je dis, il n'y a personne, c'est moi qui dois y aller, je rentre ça dans mon agenda. » Et je viens peut-être de pécher par manque de foi, parce que ce n'était pas ça que Dieu voulait que je fasse. Il voulait que je prie pour qu'il envoie quelqu'un. Tu comprends? C'est pas évident. Ça me demande de commencer par la crainte de l'Éternel. Ça me demande de commencer comme Daniel, qui priait régulièrement pour que ma raison, qui ne serait pas alimentée par la foi, qui va être déraisonnable, soit alimentée constamment par la foi. Et à ce moment-là, j'arrive devant ces circonstances-là, puis je vois un besoin, puis au lieu de me garrocher pour aller faire l'affaire comme une poule pas de tête, je vais consulter l'Éternel. Fait que, écoutez, c'est avec vos besoins financiers, c'est avec des situations monétaires, c'est avec la santé, c'est avec le voisin, c'est comment atteindre mon voisin, c'est les relations avec les gens. Dans toutes ces circonstances-là, je peux essayer de le faire avec la raison sans la foi. Si je veux prendre le terme au sens pur, je vais être déraisonnable. Parce que je prends toutes mes décisions en gardant exclu le plus gros facteur décisif dans toutes les décisions qui est Dieu. Je le garde à l'extérieur de ça. J'y vais comme si c'était juste moi le facteur déterminant. Le Seigneur est parti en vacances, il m'a laissé tout seul, fait qu'il faut que je m'en sorte. T'sais? Puis Seigneur, je vais le faire du mieux possible pour t'honorer. Je sais, de toute façon, tu ne t'occupes pas trop de moi. Tout ça, ce n'est pas raisonné. Mais si vous allez à l'intérieur de vous-même puis vous allez dans la prière, ça vient probablement de différents moments où vous avez voulu faire confiance à Dieu, ça ne s'est pas passé comme vous auriez voulu. Là, il y a un décrochage. C'est beau, Seigneur, je vais m'occuper de tes affaires si tu es trop occupé pour t'occuper de tes affaires. Je vais le faire moi-même. On ne le dit pas comme ça, vous comprenez? Je pense, dans des moments de colère, peut-être on le dit comme ça, mais après ça, on est des bons chrétiens, on a la Bible pour replacer les affaires comme il faut. Mais comme je vous dis, on n'est pas raisonnable tant qu'on n'a pas retrouvé la foi. On n'est pas raisonnable. C'est bon? À la semaine prochaine, vous êtes entre les mains de M. Samuel Gibault, un bon enseignant. Dans son cas, c'est un de ses dons, dis pas. Mais c'est un de ses dons, c'est le don d'enseignement. Alors, je suis certain que vous allez avoir un bon temps. On va terminer avec un petit mot de prière. Père éternel, nous voulons te remercier, te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, ta parole nous remet en question. Et Seigneur, le jour où ta parole ne nous amènera pas à être troublés, probablement que ce sera un jour triste et sombre parce que nous serons remplis d'orgueil, Seigneur. Mais ta parole nous amène à nous remettre en question pour voir là où nous ne sommes pas comme toi, Jésus. Là où nous ne sommes pas tes disciples, avançant comme toi par la foi. Tu priais, tu disais, Père, je te demande et je ne te demande pas pour moi parce que je sais que déjà tu m'exauces. Seigneur, nous voulons grandir dans ce sens-là. Nous ne sommes pas comme toi, tu le sais. C'est toi, ce Fils de l'homme, qui apparaît là, dans toute ta majesté dans le livre de Daniel. Et nous ne sommes pas, Seigneur, celui à qui la domination de toutes les nations sera confiée. Mais nous sommes tes disciples, Seigneur. Et nous sommes habités par ton esprit. Ce même esprit qui conduisait certainement Daniel, Seigneur, sans l'habiter de la même manière que nous, il était animé quand même et conduit par ton esprit, c'est évident. Fais-nous grandir, Seigneur. Nous voulons être tes disciples. De ressembler Jésus, ressembler à Daniel ici et à ses amis. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.